Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il va falloir qu'il bosse. Je suis déjà content là. Philippe, il a déjà convoqué demain matin à 8h. Et encore, il est gentil, parce que moi, ça serait demain matin à 6h et c'est honteux ce que j'ai aujourd'hui. Je me réserve parce que je vais exploser.
Putain de merde, sérieux !
Entraîneur, formateur, écoute l'after. Les joggeurs, les plongeurs, écoute l'after. En vélo, en scooter, j'écoute l'after. Attaquant, défenseur, écoute l'after. Même Rocco, le grand acteur, écoute l'after. Au micro, c'est Fazer, c'est Fazer.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Et oui, l'after continue jusqu'à minuit en direct, comme tous les soirs sur RMC. L'after, l'émission qui dit tout, ce que le monde du football pense tout bas. Nous sommes à 5 jours du match d'ouverture de la Coupe du Monde. Et Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau est là également. Salut Florent.
Salut à tous et surtout aux amis du bémol.
Bien sûr. Au programme jusqu'à minuit, messieurs, un invité de marque ce soir dans l'after, François Ruffin, sera avec nous dans quelques secondes pour débattre foot à l'occasion de la mise à jour d'un petit livre très intéressant nommé « Comment ils nous ont volé le football ». On va vous expliquer tout ça dans quelques instants.
Étonnant, c'est un petit livre vert. J'ai vu une allusion religieuse, mais j'ai dû me tromper.
Bonsoir.
Bonsoir François. Et merci d'être avec nous.
Ben merci à vous de m'inviter.
Comme vous appelez François.
Oui, oui.
On n'a pas tous les jours un député sur le plateau. Hein, donc,
On en a eu quelques-uns, Sacha Houllier.
Vous pouvez dire camarade aussi.
Très bien, pourquoi pas.
Déjà, il y a Thibaut qui nous le fait à chaque fois, ce coup-là. Le bonsoir camarade.
C'est pas parce que la camaraderie a été parfois dévoyée qu'on n'a pas le droit de s'appeler camarade.
C'est vrai.
Alors, la suite du programme, avant qu'on démarre le débat avec François Ruffin. L'équipe de France, évidemment, avec l'actu du jour. On reparlera de Galtier. Le débat était enflammé, là, dans Génération After. Et on réécoutera quelques extraits de sa longue interview avec Jérôme Rotten tout à l'heure. L'OM également au programme après 23h. Pablo Longoria a expliqué ses projets pour la suite de la saison aujourd'hui. On en débattra aux alentours de 23h20 tout à l'heure. Et puis, comme promis, Saint-Etienne. Point tout à l'heure en fin d'émission vers 23h40 sur la situation catastrophique des Verts, on sera sur place évidemment. E32-16 est ouvert pour tous ces sujets. Direct Studio, notre messagerie habituelle sur les applis RMC et RMC Sport. On est également direct sur Twitch comme d'habitude ce soir, donc si vous voulez voir le studio, vous allez sur le compte RMC Sport sur Twitch. Alors, tu disais Daniel, on a vu le député Roussel récemment, qui n'est plus député d'ailleurs.
Sacha Houllier,
c'est vrai, est venu expliquer son travail pour faciliter la vie des supporters.
Absolument.
Malheureusement, les supporters ne lui ont pas forcément facilité la vie à lui.
Il y a beaucoup de députés qui aiment le foot.
Oui. Bah, il y a une équipe de foot à l'Assemblée qui n'a pas des résultats brillants. Hein.
Oui, à chaque fois, vous prenez des valises. Hein,
moi, c'est catastrophique parce que je me souviens d'un match qu'on avait joué contre les journalistes. Donc, c'est quand même moi, mes anciens collègues et donc mes adversaires préférés. Et ça fait 6-0 à la mi-temps, au tiers-temps, parce que c'est trois trucs de 30 minutes. Et les collègues qui disent, bon, on a fait un bon tiers-temps. Quoi. Non, ça... bon. Je prends le foot un peu trop au sérieux pour...
Espérons que le passage de François se passe mieux que le passage de certains députés sur d'autres plateaux. Médiatique.
Pas de problème ici, tout est tout à fait cordial.
Pas le même genre de député.
Je précise, c'est la même équipe.
La même crèmerie.
Voilà.
C'est pas utile de reparler de ça.
Exactement. Alors François, je précise quand même que vous avez une formation de journaliste.
Oui.
Avant de vous lancer en politique.
Ça fait 23 ans que je suis journaliste. Moi, je considère que bon, là, j'ai un mandat de député pour 5 ans qui a été renouvelé. Mais mon métier, ça reste reporter. À l'intérieur de journaliste, ce que je préfère, c'est le reportage. Là, c'est pas vraiment un livre de reportage. Mais en général, ce que j'aime, c'est quand même le terrain, les gens. Et y compris comme député, quoi.
Et l'émanation intéressante, c'était le documentaire, notamment.
Merci patron.
Qui était du reportage.
Oui. Donc là, il s'agissait d'accompagner une famille du Nord qui avait été licenciée d'un sous-traitant de LVMH, Bernard Arnault, et de les accompagner pour qu'ils récupèrent leur maison. Et à la fin, c'est les gentils qui ont gagné, quoi.
C'est impressionnant, c'est à voir. C'est un très bon doc.
Alors, je précise donc le bouquin. Alors, comme l'a dit Florent, un petit livre vert. Comment ils nous ont volé le football. Alors, en fait, c'est un bouquin qui a été actualisé. Hein, c'est la troisième actualisation, c'est ça, si j'ai bien vu. On y parle aussi du Qatar, évidemment. Peut-être que c'était pas le cas dans les premières éditions.
Fait, c'est un chapitre qu'on a revu et augmenté.
Donc chez Fakir Édition que François a créé.
99.
Euh,
et...
Exactement. Donc j'imagine qu'il y a un site si on veut se le procurer.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, on y va pour les questions ou pas ?
On y va.
Ah, tu veux poser la première, toi ?
Ouais.
Ah, très bien, vas-y.
Comment ils nous ont volé le football ? C'est qui, ils ?
C'est le capital, en gros. C'est-à-dire le monde de l'argent. Et le football n'était pas indemne au début. Mais il est évident qu'à partir des années 70-80, on étudie beaucoup la Coupe du Monde. À partir de l'arrivée de João Havelange à la tête de la FIFA, il y a un basculement qui s'opère et on passe d'un enjeu qui est centralement géopolitique, qu'on retrouve aujourd'hui finalement avec le Qatar, parce qu'il y a le monde de l'argent, mais il y a aussi de la géopolitique qui se joue là-dedans. Il y a un enjeu centralement géopolitique, c'est-à-dire le Nord contre le Sud, avec un passage à comment on fait du business avec ça. Je veux dire de où je parle, parce que j'ai des experts en face de moi, et moi je veux le dire avec le modestie, je n'en suis pas. Je veux dire pourquoi on a fait ce bouquin avec mon camarade Antoine Dumini. Je veux dire, c'est une aventure humaine. J'ai un pote qui a 24 ans, dont on sait qu'il est malade et à qui il reste quelques semaines, mois, des petits bouts d'années à vivre. Et il est passionné de football, il est prof d'économie. On veut faire un truc ensemble et le truc qu'on se décide de faire ensemble, c'est une histoire économique du football sur les dernières décennies. Et moi, finalement, je suis un point d'appui à ça. Et si je viens ce soir, quelque part, c'est pour prolonger l'aventure que j'ai connue avec Antoine pendant ces années-là. Mais je ne vais pas venir. Je connais le contenu du livre, j'ai bossé le truc sérieusement. Mais j'ai des gens qui traînent dans les vestiaires, comme ça vient d'être raconté, observent cet univers de manière détaillée tous les jours. Et je suis pas moi the expert en la matière. J'ai touché à ça par amitié. Avec ce pote Antoine qui était un grand passionné de football, qui aurait peut-être pu devenir un bon joueur, et malheureusement la maladie on a décidé autrement.
Enfin, vous n'êtes pas un expert, mais vous êtes quand même pointé à l'Assemblée nationale avec votre maillot
le maillot de foot en l'occurrence que je portais et qui m'a valu 1500 euros d'amende à l'époque était sur un texte qui était le miracle des maillots pliés pour rendre hommage à tous les bénévoles des clubs de foot qui se bougent le derrière à Haucourt-sur-Somme là où je jouais. Moi, je jouais à l'association sportive du foyer rural de Rimont-sur-Grand, section football équipe B, donc on imagine le niveau. Mais quand le panier de maillots arrive dans le vestiaire et que tout est repassé, tout est nettoyé, alors qu'on l'a quitté un peu en désordre et plein de gadoux, ça veut dire qu'il y a des mains invisibles qui sont passées entre deux, mais c'est les mêmes mains invisibles qui conduisent les gamins sur les plateaux le samedi après-midi. Et donc, je fais un texte pour rendre hommage à ça. Et le maillot que j'arbore, c'est le dernier maillot qu'a porté Antoine dans son club de Haucourt-sur-Somme.
Alors François, quand vous parlez du monde de l'argent, c'est des thèmes qui m'intéressent énormément parce qu'on en parle très souvent nous aussi, on s'interroge sur l'avenir, mais surtout il nous arrive d'étudier le passé du foot. Le monde de l'argent, je me méfie un peu de l'expression parce que au final on le sait, le professionnalisme a été voulu par les ouvriers au début en Angleterre, c'est eux qui finalement avaient envie d'une part du gâteau. Donc assez vite l'argent est arrivé dans le football. Et moi, je dis toujours que le problème, c'est pas forcément l'argent. C'est qui il y a derrière les manettes de l'argent. Autant, je m'interroge quand les fonds d'investissement, quand tout est déshumanisé à la tête d'un club et que l'unique profit est recherché et on oublie ceux qui viennent au stade et ceux qui composent la valeur football. Mais l'argent en soi, c'est pas assez précis. C'est pour ça que je vais vous reposer la question parce que l'argent, le Real Madrid des années 50-60, c'était de l'argent. Même le Saint-Etienne, le fameux club ouvrier, c'était un club qui avait plus d'argent que ses concurrents dans les années 70. Donc, est-ce que c'est le monde de l'argent le coupable ? Ou comment voyez les choses précisément ?
Il y a des étapes successives dans cette mondialisation du football et donc le fait que ça soit des intérêts financiers. Quand on prend le Saint-Etienne des années 70, y compris avec la condamnation du dirigeant, pourquoi ? Parce que c'est de l'artisanat, c'est le petit patron local, c'est celui qu'on voit dans Coup de tête.
C'est mieux que ça, c'est le gars qui était, je crois que Roger Rocher doit être pas contre-maître, mais enfin il gravit les échelons jusqu'à être le patron.
Voilà, donc je dirais que ce que je regarde moins le football comme étant un miroir et un miroir grossissant de la société. Ça n'en est pas un pan détaché, ça appartient à la société. Et donc dans le même temps qu'on a finalement un capital national ou un capital local avec les petites boîtes un peu paternalisme et avec au fond des clubs qui sont paternalistes eux aussi, de proximité et ainsi de suite, et ben on glisse et à partir des années 80 en gros vers un capitalisme national d'abord et ensuite vers des fonds d'investissement qui misent sur les joueurs et qui il y a une espèce de démesure qui s'installe dans cet univers-là, qui s'installe dans l'univers des firmes, dans l'économie en général, avec des ouvriers qui sont licenciés sans savoir qui les licencie exactement, et qui de la même manière, la même démesure s'impose dans le monde du football aussi.
Une question pour rebondir, c'est c'est curieux de dire comment ils nous ont volé le football, parce que autant sur certains points d'ailleurs très très récents, les fonds d'investissement, les attributions éventuellement de Coupe du Monde, etc. On peut dire plein de choses, mais moi j'ai connu une époque aussi, étant enfant et un peu plus tard, où l'argent a fait du bien au foot. Je parle sportivement parlant, c'est-à-dire que on parle beaucoup du passé avec une grande nostalgie, on le fait beaucoup ici. Mais le France-Brésil de 2006, il est meilleur que le fameux France-Brésil de Guadalajara, parce qu'en fait tout s'est amélioré.
Je suis pas sûr.
Bah si, parce qu'en fait si tu regardes les deux matchs, tu vois, je l'ai encore revu là récemment.
Mais à la limite, peu importe. Non. On parle deux époques.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à l'argent, puisqu'on parlait de l'argent et de ce qu'il apporte ou de ce qu'il n'apporte pas, ce qui me fait rire, c'est que le titre, il est très bon. Il est accrocheur. Mais je trouve que dedans, en fait, il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, je tiens à le dire, très didactiques et descriptives, qui sont très importantes et intéressantes pour des tas de gens qui veulent faire une culture foot économie. Ça, c'est déjà un point important. Mais pas si, entre guillemets, polémique que cela. Parce que je trouve qu'au contraire, moi, dans la, pendant une large partie, comme l'a dit Daniel, d'abord, ça a été souhaité effectivement par les ouvriers. Ce sont des salariés qui gagnent plus que leur patron aussi, les footballeurs. C'est intéressant, ça, comme concept pour vous. Et c'est ce que disait Giroud. Lui, à l'époque, il disait, moi, je veux gagner 1 euro de plus que le meilleur de mes joueurs. Mais c'est plus le cas maintenant. Et je pense que pendant longtemps, dans le développement du professionnalisme, il y a une chose qui est très forte dans le football, contrairement à d'autres sports. On peut dire que l'argent a dévoyé certains sports. La boxe, par exemple, et autres. C'est que la hiérarchie des compétitions, la hiérarchie de ce qui fait l'importance aux yeux d'un enfant qui veut devenir footballeur, elle est restée la même. C'est-à-dire que Zidane, tout Zidane qu'il est, tout plein d'argent qu'il peut être, son rêve de gamin, c'est de gagner la Coupe du Monde ou d'être Ballon d'Or comme Mbappé. Et ça reste, ça demeure, malgré tous les tombereaux d'argent qu'il y a. C'est pour ça que cette critique en filigrane qui apparaît comme ça au début du livre, qu'on retrouve pas forcément d'ailleurs tout le temps dans le livre, et je trouve qu'elle est malvenue en fait la plupart du temps.
Il y a quand même une démesure qui s'installe. Après, bon, moi, j'ai grandi dans les années 80. Je pense que le foot, sentimentalement, pour moi et pour plein de gens, il est lié à l'enfance. C'est il y a une espèce de
d'ailleurs, il y a pas ça sur votre papa aussi,
une espèce de nostalgie.
C'est ça.
Il y a qu'est-ce que je reçois du père en regardant, puisque j'ai vu dans l'After Foot, vous avez un papier sur 1982. En assistant, moi, je deviens de gauche, entre autres, par Batiston qui se fait casser les dents avec une injustice devant le pays entier, devant le stade entier, et il y a l'injustice qui est la criante, il y a personne pour intervenir.
Bon, on connaît dans l'émission quelqu'un qui est très 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 de gauche, il défend Schumacher sur cette affaire. Donc vous l'Allemagne, ça vous vu autrement.
Vous le présenterez. Mais bon, ouais, je blague, mais enfin voilà, qui est lié quand même à une espèce de nostalgie de ces années-là. Et alors sur la transformation, donc j'ai du mal à dire que le football d'aujourd'hui est meilleur ou moins bon que le football d'hier.
Ce que je veux dire, c'est pourquoi, en fait, je redonne la parole, pourquoi s'en prendre un peu facilement et je dirais démagogiquement à l'argent.
Non,
je dis démagogique parce que côté LFI quand même.
Non, mais parce que
la démagogie,
je pense,
vous connaissez.
Je veux dire, on a atteint une démesure sur les droits télé. On a atteint une démesure sur le fait que des joueurs, il y ait des parts de joueurs qui appartiennent à un fonds d'investissement, une autre part de joueurs qui appartiennent à un autre fonds. C'est un espèce de délire quand même. Le Qatar étant pour moi l'un des points d'aboutissement de ce délire. Sur qu'est-ce que ça change dans les compétitions pour moi. Mais alors, c'est peut-être mon côté panache, mon côté sentimental, mais moi, quand il y avait le FC Malines, club belge, inconnu, qui grimpait dans la Coupe des Coupes ou la Coupe des Clubs Champions et qui arrivait jusqu'à pas où, quand il y avait le Steaua Bucarest, quand il y avait toutes ces équipes de deuxième catégorie qui vivaient des histoires de petits poussés à l'intérieur des championnats européens, ça me faisait rêver.
Oui, mais ce qui empêche genre le Malines des années 80 dont vous parlez, les équipes belges, le championnat belge ou Bucarest, le Steaua qui gagne en 86, je sais pas si c'est l'argent, mais bon, d'abord c'est la politique pour ce qui concerne les pays de l'Est, et c'est le fait que c'est surtout le fait que les joueurs sont partis et ont quitté le pays, les clubs, notamment à partir de 1995 et de l'arrêt Bosman. Donc là, on entre dans une législation européenne qui a changé les règles du jeu, où on a concentré l'argent dans certains clubs.
Oui.
Ce qui fait qu'on a moins eu les petites équipes.
C'est ça.
Mais ça, oui. Je trouve intéressant. Mais alors, dans ce cas-là, il faudrait peut-être arriver directement à dire que c'est
C'est la politique.
Les règles européennes.
Oui, c'est la politique. L'arrêt Bosman, c'est
comment les règles européennes, l'arrêt Bosman Joao Havelange et ainsi de suite nous ont volé le football. Vous voyez qu'en termes de titres, ça devient
un peu particulier. L'arrêt Bosman,
je pense que vous avez le sens de la com aussi
L'arrêt Bosman, c'est intéressant. Parce que, on peut parler de l'argent, on peut parler du développement, il y a des dérives, c'est évident. Mais, l'arrêt Bosman, c'est une décision politique.
Oui, mais
là, c'est pas les puissances de l'argent qui ont décidé. Même si derrière, elles en ont profité.
Travailleur, il était content de circuler.
Ouais, lui, comme Bosman, était content. Il y a d'autres trucs. Donc, sur pourquoi les il y a plus de d'équilibre dans les championnats nationaux. Pourquoi le championnat belge, quand on va en Belgique, il existe encore, mais il y a plus de clubs belges qui parviennent dans les compétitions européennes. Pour moi, il y a deux causes. Il y a évidemment l'arrêt Bosman avec la concentration des joueurs dans les plus grandes équipes. Et aussi, il y a le capital. Comme il investit massivement dans ce secteur-là, il doit tout faire pour éliminer de l'incertitude. On se dit que le sport est le lieu de l'incertitude, et pourtant, il y a la nécessité d'éliminer de l'incertitude. Comment? Eh bien, en faisant qu'à la place que ça soit de l'élimination directe en match aller-retour, on construit des championnats. En construisant des championnats, en multipliant les matchs, vous diminuez le niveau d'incertitude. Et je pense que c'était quelque chose, les aventures du petit poussé dans les coupes des clubs européens, comme on peut le voir
encore. Elle passait pas à la télé, et ça nécessitait
mais
pas
de l'audience. Mais si, moi, je voyais encore à la télé. Regardé Laval, à la télé.
Ouais, vous avez vu un tour et puis
non, j'ai regardé tous les tours le mercredi après-midi.
Le Metz à Barcelone, il passe pas à la télé.
Oui, franchement,
le Saint-Étienne ne passe pas à la télé.
J'ai passé mes mercredis après-midi.
Oui, non, mais ça, c'était la finale de la C1. Même des équipes françaises petites, les petites aventures comme ça, elles passaient pas.
Ah, franchement, Laval, on l'a regardé, quoi.
Dans un instant, on continue le débat avec François Ruffin.
Kiev et Austria Vienne, ça passe à la télé.
Le 32-16 est ouvert. Si vous voulez participer au débat, n'hésitez pas à nous appeler dans l'after. On se retrouve tout de suite.